Compréhension de l'oral, niveau avancé. Sujet numéro 1. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
France Bleu Matin, premier sur l'information en Nord-Pas-de-Calais.
8h24 dans France Bleu Matin, c'est la belle histoire du jour. Avec vous, Raphaëlla Berry-Vicente. Bonjour Raphaëlla.
Bonjour.
Alors, la belle histoire, c'est celle d'un petit artiste au grand cœur à Cambrai.
Oui, Arthur, 8 ans, il peint des tableaux qu'il vend ensuite au profit des SDF. L'histoire commence quand le petit garçon a 3 ans et demi, il est en vacances à Saint-Malo et avec ses parents, il voit un sans-abri déguisé en marin. Au lieu de détourner leur route ou de le dévisager comme beaucoup peuvent le faire, ses parents lui expliquent que c'est un corsaire qui a perdu son navire et Arthur va discuter avec lui. De retour à Cambrai, Arthur pose plein de questions à ses parents sur ces personnes qui vivent dans la rue et à chaque fois qu'il en voit, il réclame une pièce pour leur donner. Et un jour, ses parents lui demandent de réfléchir à une idée pour aider lui-même les SDF avec quelque chose qu'il aime faire. Et il a donc décidé de vendre ses dessins.
Et depuis, il a vendu plus d'une centaine de toiles.
Oui, au début, c'était des dessins à 50 centimes pour papy, mamie et les proches de la famille. Et aujourd'hui, il fait des expos carrément avec des peintures à l'huile ou acrylique, des paysages ou des toiles abstraites. Il expose en ce moment à la médiathèque de Raillancourt-Saint-Aul. Et quand il était encore plus petit, Arthur a aussi demandé au maire de Cambrai en personne d'installer un micro-ondes dans la ville pour ceux qu'il appelait ses pauvres. Évidemment, un micro-ondes, c'était pas possible, mais Arthur a plein d'idées. Il a donc créé une armoire itinérante, un meuble donné par Emmaüs qu'Arthur a customisé avec son père. Et le gamin invite les gens à déposer des vêtements ou des denrées alimentaires. Mais attention, pas n'importe quoi, explique Inko Ronata, une des donneuses.
La nourriture est très précise. Il faut que ça soit pas trop chocolaté, pas trop sucré, parce que les gens après auront mal au ventre. Il est plein d'aplomb. C'est vraiment un bon petit gars.
L'armoire est jusqu'à samedi à la médiathèque, mais l'idée c'est de la faire tourner pour récolter le plus de dons possible.
Et Arthur s'occupe lui-même de la distribution ?
Oui, pas question de laisser ça aux associations. Du haut de ses 8 ans, il fait les pleins de courses avec ses parents. Il choisit bien les produits, même des doudous et des jouets pour les enfants qui peuvent faire la manche. Et après, il va les donner aux sans-abri pour discuter avec eux.
Parce que presque personne ne discute avec eux et ça serait bien que la plupart des gens disent bonjour aux sans-abri parce que on se dit bonjour entre nous et on leur dit pas bonjour. Du coup, ça se fait pas et ça m'a touchée. C'est des gens comme nous. Et puis, ils ont été rejetés, ça se fait pas. Du coup, je veux qu'ils reviennent parmi nous.
Voilà Pascal, vraiment un chouette petit gars au grand cœur qui vend jusqu'à samedi ses œuvres à la médiathèque. Il sera sur place samedi et toutes les infos avec les photos de ses peintures sont à retrouver sur francebleu.fr.
Une très belle histoire. Merci Raphaël.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
France Bleu Matin, premier sur l'information en Nord-Pas-de-Calais.
8h24 dans France Bleu Matin, c'est la belle histoire du jour. Avec vous, Raphaëlla Berry-Vicente. Bonjour Raphaëlla.
Bonjour.
Alors, la belle histoire, c'est celle d'un petit artiste au grand cœur à Cambrai.
Oui, Arthur, 8 ans, il peint des tableaux qu'il vend ensuite au profit des SDF. L'histoire commence quand le petit garçon a 3 ans et demi, il est en vacances à Saint-Malo et avec ses parents, il voit un sans-abri déguisé en marin. Au lieu de détourner leur route ou de le dévisager comme beaucoup peuvent le faire, ses parents lui expliquent que c'est un corsaire qui a perdu son navire et Arthur va discuter avec lui. De retour à Cambrai, Arthur pose plein de questions à ses parents sur ces personnes qui vivent dans la rue et à chaque fois qu'il en voit, il réclame une pièce pour leur donner. Et un jour, ses parents lui demandent de réfléchir à une idée pour aider lui-même les SDF avec quelque chose qu'il aime faire. Et il a donc décidé de vendre ses dessins.
Et depuis, il a vendu plus d'une centaine de toiles.
Oui, au début, c'était des dessins à 50 centimes pour papy, mamie et les proches de la famille. Et aujourd'hui, il fait des expos carrément avec des peintures à l'huile ou acrylique, des paysages ou des toiles abstraites. Il expose en ce moment à la médiathèque de Raillancourt-Saint-Aul. Et quand il était encore plus petit, Arthur a aussi demandé au maire de Cambrai en personne d'installer un micro-ondes dans la ville pour ceux qu'il appelait ses pauvres. Évidemment, un micro-ondes, c'était pas possible, mais Arthur a plein d'idées. Il a donc créé une armoire itinérante, un meuble donné par Emmaüs qu'Arthur a customisé avec son père. Et le gamin invite les gens à déposer des vêtements ou des denrées alimentaires. Mais attention, pas n'importe quoi, explique Incoronata, une des donneuses.
La nourriture est très précise. Il faut que ça soit pas trop chocolaté, pas trop sucré, parce que les gens après auront mal au ventre. Il est plein d'aplomb. C'est vraiment un bon petit gars.
L'armoire est jusqu'à samedi à la médiathèque, mais l'idée c'est de la faire tourner pour récolter le plus de dons possible.
Et Arthur s'occupe lui-même de la distribution ?
Oui, pas question de laisser ça aux associations. Du haut de ses 8 ans, il fait les pleins de courses avec ses parents. Il choisit bien les produits, même des doudous et des jouets pour les enfants faire la manche. Et après, il va les donner aux sans-abri pour discuter avec eux.
Parce que presque personne ne discute avec eux et ça serait bien que la plupart des gens disent bonjour aux sans-abri parce que on se dit bonjour entre nous et on leur dit pas bonjour. Du coup, ça se fait pas et ça m'a touchée. C'est des gens comme nous. Et puis, ils ont été rejetés, ça se fait pas. Du coup, je veux qu'ils reviennent parmi nous.
Voilà Pascal, vraiment un chouette petit gars au grand cœur qui vend jusqu'à samedi ses œuvres à la médiathèque. Il sera sur place samedi et toutes les infos avec les photos de ses peintures sont à retrouver sur francebleu.fr.
Une très belle histoire, merci Raphaël.
Sujet numéro 2. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 2, document sonore, première écoute.
Le Social Lab, c'est avec vous. Valère Correa, bonjour Valère.
Bonjour Eric.
On va rappeler que vous êtes le directeur de la rédaction du Pure Player ID, ID pour Info Durable. Alors ce matin, à propos des mouvements qui disent non au plastique dans les supermarchés.
Et il y a tant d'emballages qu'on finit par même plus y faire attention et pourtant les conséquences environnementales sont bien là, alors que l'utilité d'autant de plastique n'est pas vraiment prouvée. Alors peut-être un petit rappel pour commencer ce matin. À l'échelle mondiale, 90% du plastique produit n'est pas recyclé. Dans le même temps, la pollution par le plastique des océans continue de faire des ravages. On estime que 267 espèces marines sont impactées par le plastique, notamment car elles le confondent avec de la nourriture. Et un autre chiffre saisissant, d'ici 2050, 99% des oiseaux marins auront mangé au moins une fois du plastique.
Et donc les supermarchés sont devenus une sorte de symbole de cette société du tout plastique.
Et oui, et dans certains cas, cela devient même risible. Une campagne vient d'être lancée par Greenpeace et elle invite les internautes à poster des photos d'emballages ridicules sur les réseaux sociaux. Et ça vaut vraiment le détour. On retrouve derrière le hashtag Ridiculous Packaging une banane sur une barquette en plastique, elle-même enveloppée dans du plastique, mais une seule banane, Eric. Ou alors une seule pomme rouge, présentée comme écologique et responsable. Tiens donc, mais problème, cette annonce est faite sur l'emballage en plastique de cette pomme, sans parler des rayons bio où on trouve plus de plastique que de produits comestibles.
Et les supermarchés sont d'ailleurs la cible d'une autre campagne, encore plus radicale que celle de Greenpeace.
Les plastiques attaquent. Là, on passe à la vitesse supérieure. Il s'agit d'opérations coup de poing qui consistent à venir en groupe faire ses courses, passer à la caisse et là, se débarrasser de tous les emballages inutile dans un chariot. Objectif, montrer à quel point c'est là aussi ridicule. Et rassurez-vous, pas question de gaspiller. Les militants repartent avec leurs produits, mais dans des contenants réutilisables. Une petite leçon donc. Et le mouvement est né de l'initiative d'un certain Tony Mitchell en Angleterre. Mais depuis, Amsterdam, Bruxelles, Oslo, New Delhi, Séoul, Berlin ou encore Montréal ont suivi le pas. Et Paris arrive. Une opération de désemballage est prévue le 2 juin prochain.
Oui, à Paris, mais aussi dans plusieurs dizaines d'autres villes qui vont être donc concernées ce jour-là.
Oui, le 2 juin, en fait, des dizaines de villes dans le monde seront concernées par des plastiques attaques. Et derrière ce concept, il ne s'agirait pas de passer en force, même si on parle d'attaque. C'est en tout cas ce que nous a confié la porte-parole du mouvement en France, Fanny Vismara.
La plastique attaque, c'est un mouvement donc citoyen et pacifique. Malgré le fait qu'il y ait attaque dans le mot, on va certainement essayer d'entrer en contact avec les directeurs de magasins pour qu'ils s'associent au mouvement. Il y a eu certaines plastic attacks qui ont eu lieu donc en Belgique et celle d'Angleterre où les distributeurs donc Tesco et je ne sais plus l'autre nom se sont engagés avec le mouvement et donc se sont engagés à réduire leurs emballages suite à l'événement. Donc on aimerait faire la même chose et faire un partenariat intelligent.
Et on peut se poser la question si le supermarché ne veut pas jouer le jeu. Voici la réponse de Fanny Vismara.
Ça, c'est une bonne question, mais de toute manière, vu qu'on est des consommateurs lambda, je vois pas comment ils pourraient nous refuser d'aller faire nos courses. Et je pense que c'est dans leur intérêt, déjà parce qu'on sera nombreux, donc je pense que ça va augmenter leur chiffre d'affaires sur la journée. Donc déjà, au niveau économique, je pense que ça les sert. Et ensuite, vu que c'est une initiative qui prend de l'ampleur, je pense qu'ils ont tout intérêt à s'associer avec nous.
Voilà, et notez qu'il existe un supermarché à l'abri de ce type d'opération, que ce soit une plastique attaque ou Ridiculous Packaging, c'est à Amsterdam, c'est le premier supermarché avec un rayon entier sans plastique. Ici, les emballages existent, mais ils sont tous composés de matériaux biodégradables ou réutilisables. Mmh. Un exemple sans doute à suivre.
Eh bien, si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver cette interview vidéo de la porte-parole parisienne de la plastique attaque. C'est sur le site linfodurable.fr et merci à vous, Valère Correa.
On ne peut plus faire ses courses comme on les faisait avant, Éric Delvaux, depuis qu'on a Valère Correa dans sa vie.
Avec de moins en moins de plastique, exactement.
Et vous à l'œil.
Le Social Lab, c'est aussi un podcast sur franceinter.fr.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
Le Social Lab, c'est avec vous. Valère Correa, bonjour Valère.
Bonjour Eric.
On va rappeler que vous êtes le directeur de la rédaction du Pure Player ID, ID pour Info Durable. Alors ce matin, à propos des mouvements qui disent non au plastique dans les supermarchés.
Et il y a tant d'emballages qu'on finit par même plus y faire attention et pourtant les conséquences environnementales sont bien là, alors que l'utilité d'autant de plastique n'est pas vraiment prouvée. Alors peut-être un petit rappel pour commencer ce matin. À l'échelle mondiale, 90% du plastique produit n'est pas recyclé. Dans le même temps, la pollution par le plastique des océans continue de faire des ravages. On estime que 267 espèces marines sont impactées par le plastique, notamment car elles le confondent avec de la nourriture. Et un autre chiffre saisissant, d'ici 2050, 99% des oiseaux marins auront mangé au moins une fois du plastique.
Et donc les supermarchés sont devenus une sorte de symbole de cette société du tout plastique.
Et oui, et dans certains cas, cela devient même risible. Une campagne vient d'être lancée par Greenpeace et elle invite les internautes à poster des photos d'emballages ridicules sur les réseaux sociaux. Et ça vaut vraiment le détour. On retrouve derrière le hashtag Ridiculous Packaging une banane sur une barquette en plastique, elle-même enveloppée dans du plastique, mais une seule banane, Eric. Ou alors une seule pomme rouge présentée comme écologique et responsable. Tiens donc, mais problème, cette annonce est faite sur l'emballage en plastique de cette pomme, sans parler des rayons bio où on trouve plus de plastique que de produits comestibles.
Et les supermarchés sont d'ailleurs la cible d'une autre campagne, encore plus radicale que celle de Greenpeace.
Les plastiques attaquent, là on passe à la vitesse supérieure, il s'agit d'opérations coup de poing qui consistent à venir en groupe faire ses courses, passer à la caisse et là se débarrasser de tous les emballages inutiles dans un chariot. Objectif, montrer à quel point c'est là aussi ridicule et rassurez-vous, pas question de gaspiller. Les militants repartent avec leurs produits mais dans des contenants réutilisables, une petite leçon donc. Et le mouvement est né de l'initiative d'un certain Tony Mitchell en Angleterre, mais depuis Amsterdam, Bruxelles, Oslo, New Delhi, Séoul, Berlin ou encore Montréal ont suivi le pas. Et Paris arrive, une opération de désemballage est prévue le 2 juin prochain.
Oui, à Paris, mais aussi dans plusieurs dizaines d'autres villes qui vont être donc concernées ce jour-là.
Oui, le 2 juin, en fait, des dizaines de villes dans le monde seront concernées par des plastiques attaques. Et derrière ce concept, il ne s'agirait pas de passer en force, même si on parle d'attaque. C'est en tout cas ce que nous a confié la porte-parole du mouvement en France, Fanny Wismara.
La Plastique Attaque, c'est un mouvement donc citoyen et pacifique. Malgré le fait qu'il y ait attaque dans le mot, on va certainement essayer d'entrer en contact avec les directeurs de magasins pour qu'ils s'associent au mouvement. Il y a eu certaines plastiques attaques qui ont eu lieu donc en Belgique et celle d'Angleterre, où les distributeurs, donc Tesco et je ne sais plus l'autre nom, se sont engagés avec le mouvement et donc se sont engagés à réduire leurs emballages suite à l'événement. Donc on aimerait faire la même chose et faire un partenariat intelligent.
Et on peut se poser la question, si le supermarché ne veut pas jouer le jeu, voici la réponse de Fanny Wismara.
Ça, c'est une bonne question, mais de toute manière, vu qu'on est des consommateurs lambda, je vois pas comment ils pourraient nous refuser d'aller faire nos courses. Et je pense que c'est dans leur intérêt, déjà parce qu'on sera nombreux, donc je pense que ça va augmenter leur chiffre d'affaires sur la journée. Donc déjà, au niveau économique, je pense que ça les sert. Et ensuite, vu que c'est une initiative qui prend de l'ampleur, je pense qu'ils ont tout intérêt à s'associer avec nous.
Voilà, et notez qu'il existe un supermarché à l'abri de ce type d'opération, que ce soit une plastique attaque ou Ridiculous Packaging, c'est à Amsterdam, c'est le premier supermarché avec un rayon entier sans plastique. Ici, les emballages existent, mais ils sont tous composés de matériaux biodégradables ou réutilisables. Mmh. Un exemple sans doute à suivre.
Eh bien, si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver cette interview vidéo de la porte-parole parisienne de la plastique attaque. C'est sur le site linfodurable.fr et merci à vous, Valère Correa.
On ne peut plus faire ses courses comme on les faisait avant, Éric Delvaux, depuis qu'on a Valère Correa dans sa vie.
Avec de moins en moins de plastique, exactement.
Et vous avez l'œil.
Le Social Lab, c'est aussi un podcast sur franceinter.fr.
Sujet numéro 3. Vous avez une minute pour lire les consignes. Sujet numéro 3. Première écoute. Document numéro 1.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, à l'occasion du sommet climat qui se déroule aux portes de Paris, nous pensons aux jeunes en Afrique. Quel métier vert pour demain ? La transition vers l'économie verte pourrait générer jusqu'à 60 millions d'emplois supplémentaires à l'échelle mondiale. Combien de millions pour l'Afrique ? La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au climat vont-ils vraiment procurer des jobs aux jeunes diplômés ? Et si oui, lesquels ? Après quelle formation, quelles compétences ? Pour l'instant, une certitude, jamais les entreprises ne se sont autant engagées, mobilisées. C'est donc qu'il y a du business. Alors peut-être pas seulement du greenwashing, c'est-à-dire une communication opportuniste, nous sommes un business responsable, mais aussi de véritables transformations concernant la transition énergétique, mais aussi les transports ou encore l'agriculture. Certes, l'Afrique est le continent le moins pollueur de la planète, alors sera-t-elle concernée par ces nouveaux emplois verts ? On va en discuter avec nos invités.
Document numéro 2.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque mois, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain avec les conseils du coach Didier Akwété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez Afrique Search, société de conseil en ressources humaines.
Jusque-là, oui.
Et le mois dernier, nous étions à Saint-Louis avec vous, à Saint-Louis du Sénégal, pour encourager de jeunes entrepreneurs qui démarrent, qui galèrent. C'est toujours un peu les mêmes problèmes, recruter, cibler ses services, ses produits, ses circuits de distribution, trouver des partenaires, parler à son banquier, s'exporter. Ça s'appelle la difficile vie des JPAG.
Et tout ce qu'on trouve dans un business plan.
Voilà, jeune patron de l'Afrique qui gagne le fameux business plan. C'est souvent ce qui vous met en rogne quand il n'est pas suffisamment précis. Alors aujourd'hui, on est dans le studio de RFI et bien sûr, les voisins qui nous écoutent et les voisines surtout, les entrepreneuses. Vous pouvez nous appeler pour nous parler de vos difficultés, ne serait-ce que difficultés pour commencer, pour lancer le projet.
Document numéro 3.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, les hôtels en Afrique. Nouveaux clients, nouvelles ambitions. Ces dernières années, l'hôtellerie en Afrique, en tout cas, a changé de visage pour répondre aux besoins d'une clientèle qui sillonne le continent pour le boulot. Alors, meilleur service, meilleur confort, mais pourquoi des prix encore si élevés ? Et puis, l'Afrique va-t-elle demeurer encore longtemps le seul continent sans touristes dans ses hôtels pour le loisir ? Les voisins, on attend vos témoignages, vos expériences, bureau des plaintes, félicitations ou questions.
Sujet numéro 3. Deuxième écoute. Document numéro 1.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, à l'occasion du sommet climat qui se déroule aux portes de Paris, nous pensons aux jeunes en Afrique. Quel métier vert pour demain ? La transition vers l'économie verte pourrait générer jusqu'à 60 millions d'emplois supplémentaires à l'échelle mondiale. combien de millions pour l'Afrique? La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au climat vont-ils vraiment procurer des jobs aux jeunes diplômés? Et si oui, lesquels? Après quelle formation, quelles compétences? Pour l'instant, une certitude, jamais les entreprises ne se sont autant engagées, mobilisées. C'est donc qu'il y a du business. Alors peut-être pas seulement du greenwashing, c'est-à-dire une communication opportuniste, nous sommes un business responsable, mais aussi de véritables transformations concernant la transition énergétique, mais aussi les transports ou encore l'agriculture. Certes, l'Afrique est le continent le moins pollueur de la planète, alors sera-t-elle concernée par ces nouveaux emplois verts? On va en discuter avec nos invités.
Document numéro 2.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque mois, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain avec les conseils du coach Didier Akwété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez Afrique Search, société de conseil en ressources humaines.
Jusque là, oui.
Et le mois dernier, nous étions à Saint-Louis avec vous, à Saint-Louis du Sénégal, pour encourager de jeunes entrepreneurs qui démarrent, qui galèrent. Bah, c'est toujours un peu les mêmes problèmes. Recruter, cibler ses services, ses produits, ses circuits de distribution, trouver des partenaires, parler à son banquier, s'exporter. Ça s'appelle la difficile vie des JPAG.
Et tout ce qu'on trouve dans un business plan.
Voilà, jeune patron de l'Afrique qui gagne le fameux business plan. C'est souvent ce qui vous met en rogne quand il n'est pas suffisamment précis. Alors aujourd'hui, on est dans le studio de RFI et bien sûr, les voisins qui nous écoutent et les voisines surtout, hein, les entrepreneuses. Vous pouvez nous appeler pour nous parler de vos difficultés, ne serait-ce que difficultés pour commencer, pour lancer le projet.
Document numéro 3.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, les hôtels en Afrique. Nouveaux clients, nouvelles ambitions. Ces dernières années, l'hôtellerie en Afrique, en tout cas, a changé de visage pour répondre aux besoins d'une clientèle qui sillonne le continent pour le boulot. Alors, meilleur service, meilleur confort, mais pourquoi des prix encore si élevés? Et puis, l'Afrique va-t-elle demeurer encore longtemps le seul continent sans touristes dans ses hôtels pour le loisir? Les voisins, on attend vos témoignages, vos expériences, bureau des plaintes, félicitations ou questions.